Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Pour les États-Unis, la capitale d'Israël, c'est désormais Jérusalem. Donald Trump l'a annoncé il y a quelques minutes et c'est une vraie rupture dans la diplomatie américaine et internationale sur la question israélo-palestinienne. Depuis la proclamation d'Israël en 1948 et l'annexion de Jérusalem-Est en 1967, c'était la position israélienne, mais aucun État de la communauté internationale ne l'avait reconnu et les ambassades étrangères étaient situées et sont toujours situées à Tel Aviv. Avec ce changement, le président américain franchit une vraie ligne rouge pour les pays du monde arabo-musulman et au-delà. Quelles conséquences cette décision américaine peut-elle avoir sur le processus de paix et dans le conflit israélo-palestinien ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Annick Cizel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maître de conférence à Paris 3, Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, un métier de plus en plus difficile depuis quelques mois. Et bonjour. Denis Bochard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur en Jordanie, conseiller pour le Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. On va récapituler un peu pour commencer, pour que les gens qui ne connaissent pas forcément bien la question, qui est ancienne et compliquée, puissent bien comprendre. Jérusalem est une ville trois fois sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, je parle par ordre chronologique, et elle est revendiquée comme capitale à la fois par Israël et par les Palestiniens, en particulier depuis l'annexion par Israël de la partie Est en 1967. C'est donc un important point de crispation de la question israélo-palestinienne. Est-ce que c'est pour cela, Denis Bochard, qu'aucun pays jusque-là n'a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël ? C'est pour ne pas jouer avec le feu, si je peux dire ?
Oui, effectivement, puisque depuis 1947, il y a un statut de Jérusalem, le Corpus Separatum, qui normalement, je dirais, est toujours en vigueur. Et cette décision est une infraction à la légitimité international représenté par au droit international représenté par ce statut. Et donc à deux exceptions près, je crois, de pays d'Amérique centrale, il n'y a aucune ambassade qui se trouve à Jérusalem, elle se trouve toute pratiquement à Tel Aviv, étant bien entendu que les diplomates viennent fréquemment à Jérusalem pour avoir des contacts avec les autorités israéliennes.
Alors, ce changement de position américain, Annick Cizel, vous qui êtes spécialiste de la politique étrangère américaine, je vais vous demander tout simplement pourquoi, s'il y a une explication rationnelle.
Alors en fait, il y a une activation d'un processus qui était en place depuis 1995. Il s'agit d'une loi de 1995 que Bill Clinton avait, sur laquelle Bill Clinton avait à l'époque négocié un compromis qui était cette certification tous les 6 mois ou pas par le président des États-Unis. Le Congrès, à majorité républicaine à l'époque, avait voté dans cette loi sur le statut de Jérusalem cette reconnaissance. D'ores et déjà. Sauf que, de manière bipartisane, les deux partis l'un après l'autre, que ce soit Bill Clinton, que ce soit George W. Bush, républicain, puis Barack Obama, démocrate, et même Donald Trump, une première fois, avaient refusé de mettre en place cette reconnaissance, de ratifier quelque part ce déplacement de la reconnaissance de la capitale israélienne de Tel Aviv à Jérusalem, et ouvrant le débat sur un découplage possible du transfert de l'ambassade. Là, ce soir, Donald Trump a pris la décision de faire table rase de toutes les positions des deux partis politiques américains d'un seul coup, de la communauté internationale et des différentes résolutions de l'ONU, et de garder le couplage, effectivement, donc table rase complète.
Oui, il fait les deux.
Il fait Jérusalem et il annonce le déplacement, le déménagement de l'ambassade.
Alors, c'est pas exactement une surprise, Denis Bochard, parce qu'il l'avait plus ou moins annoncé pendant sa campagne électorale. Néanmoins, c'est une décision lourde de conséquences, sur le plan juridique et même, si j'allais dire, de la sécurité dans le pays.
Absolument. Pour une fois, peut-être le président Trump est cohérent avec lui-même. C'était effectivement une promesse faite pendant la campagne électorale. Ceci étant, jusqu'à maintenant, la décision n'avait pas été prise. Et il semble qu'il y a eu en coulisses des tensions entre, d'une part, je dirais, l'establishment diplomatique et militaire, en particulier le général Matisse, le patron du Patagone, et Max Tillerson, le patron de...
Le secrétaire d'État,
pour empêcher une telle décision.
Mais Jules Matisse, qui lui, forcément en tant que militaire, est quand même assez pragmatique.
Tout à fait. Qui a déjà suffisamment de problèmes au Moyen-Orient à gérer entre l'Irak, l'Afghanistan et le Yémen pour effectivement éviter tout autre engagement. Et puis de l'autre côté, il y avait Jared Kushner,
le gendre
du président, qui est effectivement en contact étroit à la fois avec Benjamin Netanyahu et avec Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite pour essayer de faire un deal sur la question palestinienne, d'obtenir un accord. Et semble-t-il, ce deal ne se présentait pas bien. En tout cas, il y avait des signaux de la part de Mahmoud Abbas pour considérer qu'il n'était pas acceptable. C'est peut-être ceci qui a précipité d'ailleurs la décision du président Trump.
Alors, il y a ces raisons en coulisses, si je puis dire, sur l'explication de la décision. Est-ce qu'il y a des raisons qui sont purement des raisons de politique politicienne intérieure, Annick Cizel?
Ah, clairement, c'est une promesse de campagne que le président Trump et le vice-président Mike Pence avaient respectivement en mars 2016 puis mars 2017 réitéré devant l'AIPAC, devant the American Israel Public Affairs Committee, qui est le principal lobby pro-israélien aux États-Unis. En mars 2016, Donald Trump avait été tellement virulent dans son soutien à Israël unilatéralement et à l'exclusion de tout soutien ou tentative de partage du soutien avec les Palestiniens que l'AIPAC avait dû présenter ses excuses deux jours après, parce que c'est censé être un lobby bipartisan et relativement neutre. Cette fois-ci, en mars 2017, quand le vice-président Mike Pence promet de nouveau de reconnaître Jérusalem et de transférer l'ambassade, il n'y a plus de tollé, ce qui montre à quel point la polarisation du corps politique américain est en train de se mettre en place et à quel point le soutien pas simplement populaire, sur lequel on a beaucoup on en a beaucoup parlé, de ce soutien populaire de certaines classes qui se sentaient déclassées, etc., au moment des élections, mais là on parle d'une élite, d'une forme de l'élite américaine qui est en train de se polariser vers la droite, d'être de plus en plus conservatrice, de plus en plus nationaliste. Et dans le discours de Donald Trump tout à l'heure, les termes qui reviennent sont la souveraineté nationale d'Israël, et le mot souveraineté est devenu vraiment l'un des mots-clés de la rhétorique de Donald Trump récemment. On a vraiment une déclaration de relations spéciales avec Israël, à la fois sur des principes de sécurité nationale communs qui sont bien connus, mais des valeurs communes. Et dans son discours, Donald Trump nous rappelle qu'Israël est une démocratie. Et cela fait penser à l'Alliance des démocraties qui tenait tellement chaud au cœur de George W. Bush.
Ouais.
À la fois donc cette référence à une souveraineté nationale à l'exclusion de tout compromis possible, concrètement ce discours met à genoux les Palestiniens et nous ouvre également une petite fenêtre sur cette diplomatie transactionnelle du président Trump. C'est du transactionnalisme jusqu'au boutisme.
C'est-à-dire qu'il fait des deals, quoi. Il fait des deals d'affaires.
Très fort, très musclé. Il a d'abord fermé puis rouvert un tout petit peu la mission de l'OLP à Washington. Il est en train d'humilier les Palestiniens et de fermer tout canal de communication diplomatique dans le sens équilibré, respectueux du terme. Il vient de taper du poing sur la table, clairement, laissant peut-être, dans son esprit en tout cas, ouverte la porte vers une négociation, mais une négociation pour laquelle les Palestiniens n'ont plus beaucoup d'options aujourd'hui.
Alors vous avez devancé la question que j'allais vous poser, comment l'explique-t-il? Vous l'avez largement expliqué. Denis Bochard, est-ce que d'autres pays peuvent suivre l'exemple de Donald Trump? Est-ce que ça peut ouvrir une porte vers la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par d'autres pays?
Écoutez, dans l'immédiat, je ne le pense pas. Mais
c'est quand même ceci, les États-Unis, quoi. C'est quand même
ceci va accentuer naturellement la pression sur un certain nombre de pays et un certain nombre de pays avec lesquels les États-Unis peuvent avoir des relations proches.
Oui, il peut y avoir.
Ceci étant, le premier effet de cette décision, c'est de mettre dans l'embarras les alliés arabes les plus proches des États-Unis,
en particulier
la Jordanie et l'Arabie Saoudite. En effet, le roi de Jordanie depuis 1967, gère les lieux saints de l'esplanade des mosquées. Et c'est sous sa tutelle, sous son autorité, ceci a été reconnu d'ailleurs par le traité de paix entre Israël et la Jordanie. Le roi de Jordanie a été ces jours-ci à Washington et a essayé de dissuader effectivement le président de prendre cette décision. Il n'y a pas réussi et il a pris une position très très ferme de condamnation de cette prise de position, ne serait-ce que pour des raisons de politique intérieure, car effectivement en Jordanie, pratiquement 2/3 de la population sont d'origine palestinienne. Et donc pour lui, c'est une menace contre la stabilité, sur la stabilité du royaume. Quant à l'Arabie Saoudite, on a senti effectivement une réconciliation après la période Trump, après la période Obama qui avait été difficile, une période de relations très difficile entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ont été revenus une période relativement euphorique avec,
avec de nouveaux dirigeants,
la réception
avec,
grandiose, triomphante de Donald Trump
par Mohamed Ben Salman.
En mai dernier, par le roi Salman et son fils Mohamed. Or là aussi, l'Arabie Saoudite ne peut prendre qu'une position de condamnation. Et d'ailleurs, le roi Salman a eu des propos relativement durs, parce que c'est un lieu de saint d'islam. Et d'autre part, effectivement, le roi d'Arabie Saoudite tient à son rôle de gardien des lieux saints que sont la Mecque et Médine, et je dirais, et par ricochet, Jérusalem. Et en Arabie Saoudite, il y a une opinion publique qui est foncièrement anti-américaine, anti-israélienne, et avec laquelle il doit compter.
Alors, il y a un autre allié régional des États-Unis, même si ce pays s'éloigne un petit peu de tous ses alliés ces derniers mois, c'est la Turquie. Annick Cizel, les relations entre les États-Unis et la Turquie s'étaient un petit peu compliquées depuis la reprise en main par Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que ça peut être un moyen de rétablir le courant, ou est-ce que on a l'impression quand même que le président turc il veut prendre un peu la tête de la fronde contre cette décision?
Alors, quelles sont les actions que Erdogan va décider dans les 24-48 heures qui viennent?
Il va convoquer un sommet des principaux.
Il convoque pour pas prendre la décision seul, mais il a prévenu que ça pouvait aller jusqu'à la rupture des relations avec Israël. On sait que les relations étaient extrêmement tendues entre la Turquie et Israël, et une fois de plus, on va avoir un bras de fer entre deux hommes forts, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, sur un point de leadership, sur un point d'autorité et d'autorité morale chacun dans son cercle. Et Erdogan se présente désormais, parce qu'il se trouve qu'il est à la tête d'une organisation qui le lui permet, comme défenseur du monde musulman à l'instant T. Et ce que vient de faire le président Trump potentiellement est de lui donner cette légitimité de devenir le porte-parole, plus simplement, alors qu'on connaît l'opposition, on connaît le discours d'Erdogan sur la tentative de coup d'État de juillet 2016, etc. Donc déjà tout le casus belli qu'il opposait aux États-Unis. On sait les extrêmes difficultés diplomatiques entre les deux pays actuellement, cette sorte d'amis et d'ennemis en même temps, un petit peu comme l'est parfois le Pakistan. Et là, Trump vient de donner à Erdogan toute la légitimité multilatérale de surcroît, en se mettant lui-même, le président Trump, au banc de la communauté internationale. Emmanuel Macron, dans sa toute première déclaration, en appelait aux négociations de l'ONU. Et clairement, l'opposition, elle est là. Elle est entre le multilatéralisme de l'ONU, le président Trump unilatéraliste tout seul, qui vient donc de donner le pouvoir à Erdogan de s'ériger en leader multilatéral musulman contre les États-Unis. Donc il vient de lui donner
Il a ouvert un espace énorme.
Absolument énorme.
Alors, on a parlé de diplomatie, de conséquences pour la région. On va peut-être revenir un petit peu au centre du débat, qui est Jérusalem et Israël, et les relations israélo-palestiniennes. Denis Bochard, vous qui avez bien connu et connaissez bien la région, quelles conséquences directes peut-il y avoir? Est-ce que clairement, est-ce que des heurts sont à prévoir? Le Hamas appelle notamment à s'attaquer aux intérêts américains.
Oui, absolument. Il y a une des décisions du Hamas est extrêmement, extrêmement dure.
Mais décision ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains. C'est ce qu'a dit le Hamas.
Je crois qu'il ne faut pas, exagérer la portée d'une rhétorique un peu enflammée. Mais il est sûr que ceci ouvre à un risque sécuritaire, un risque de manifestation violente, comme il y en a eu il n'y a pas si longtemps, en juillet dernier.
Parce que la question de l'accès à l'esplanade des mosquées cause souvent des manifestations violentes.
Effectivement, l'esplanade des mosquées est un endroit extrêmement sensible, puisque au-dessus, c'est un site religieux musulman, c'est un lieu saint musulman, avec la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher. Et en contrebas,
le mur des lamentations.
Il y a régulièrement des tentatives de fouilles archéologiques sous l'esplanade.
Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que là, ce dont on parle là, c'est grand comme un terrain de football.
Oui, à peu près. Un grand terrain de football. Et donc, il y a eu des heurts assez violents à plusieurs reprises, notamment en raison de la volonté de certains mouvements extrémistes israéliens, en particulier le mouvement de l'Institut du Temple, qui veut reconstruire le troisième temple sur l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire raser les mosquées et mettre à la place le troisième temple.
Ça pose problème.
Et donc, effectivement, il y a eu des mesures de sécurité qui ont été prises, l'interdiction en principe aux Israéliens de pénétrer sur l'esplanade des mosquées. Mais c'est un endroit essentiellement inflammable, si j'ose dire. Et donc, il y a un problème de sécurité. Et puis, à mon avis, ceci va complètement rendre vain la recherche d'un deal, du fameux deal entre Israël et les Palestiniens.
Voilà. L'incident sur le processus de paix et sur la solution à deux États. Tout ça, c'est mort?
Absolument. La solution à deux États a déjà beaucoup de plomb dans l'aile et il est clair que cette décision ne va pas arranger les choses.
Annick Cizel, la solution à deux États, le processus de paix, est-ce que là, il vient d'être achevé par Donald Trump?
Je pense que quelque part, il vient surtout d'échapper aux États-Unis. C'est-à-dire que je vois mal la communauté internationale, à commencer par l'Union européenne. Les déclarations de Federica Mogherini ces dernières 48 heures étaient très claires, que nous n'étions pas d'accord. Et donc, je vois mal comment les États-Unis vont pouvoir continuer à poursuivre cet effort de médiation historique qui était dans leur giron historiquement depuis 1947.
C'était eux qui dirigeaient ce processus, hein. La poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, c'était à Washington.
Voilà, quand David, c'était eux, c'était... Voilà. Et je pense que quelque part, le président Trump aura du mal vis-à-vis de la communauté internationale aujourd'hui à maintenir la place des États-Unis dans un processus de médiation crédible. Il vient de choisir un camp. Il peut toujours nous dire solution à un État ou à deux États, je suis d'accord pourvu que les deux parties soient d'accord. Les deux parties aujourd'hui ne sont absolument plus autour d'une même table par la décision des États-Unis. Donc quelque part, il vient de récuser son pays d'un rôle de médiateur, j'allais dire honnête, c'est-à-dire ouvert à toutes les médiations, ouvert à la négociation, sauf que la négociation vient d'être pliée, en tout cas sur l'un des points fondamentaux du processus de paix israélo-palestinien.
Denis Bochard, l'incidence de cette décision, on n'a plus beaucoup de temps, hein, sur la stabilité régionale déjà mise à mal par la rivalité irano-saoudienne. Qu'est-ce que ça peut être? Ça va mettre encore plus le bazar dans la région, si je peux dire ça comme ça?
Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit de bottes dans la région et c'est une nouvelle étape qui peut perturber déjà une situation extrêmement, extrêmement fragile. Ceci étant, comme je le disais, il me semble que cette décision met dans l'embarras l'Arabie saoudite et perturbe quelque peu le rapprochement, de toute façon problématique, entre Israël et l'Arabie saoudite. Il y a certes une concertation au niveau des services de renseignement, mais on voit mal une alliance, je dirais, ostentatoire entre l'Arabie saoudite et l'Israël contre l'Iran, surtout dans le contexte actuel.
Merci Denis Bochard. d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Annick Cizel, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à Florence Ponce qui vous a fait venir, à Gérard Perrault qui était à la documentation et à Valentin Vanner qui était à la réalisation aujourd'hui. Demain matin, édition spéciale sur cette reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce sera à partir de 6h10, temps universel avec Vincent Souriau. À suivre sur RFI, les infos dans moins d'une minute et la bande passante de l'ami Alain Pilot, spécial Johnny Hallyday. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.